vais pas vous faire une présentation très détaillée de leur cursus. Ils en parleront eux-mêmes. Je vous dis simplement, puisqu'on va commencer par les débuts des chercheurs, qu'elle a rédigé une thèse qui s'intitule « Cycle en paralittérature contemporaine, domaine français et américain ». Simon Bréant, il est là Simon, qui est agrégé de lettres classiques, docteur en littérature française, spécialiste de la littérature de science-fiction d'expression française, secrétaire de rédaction de la revue Res Futurae, et qui a soutenu une thèse qui s'intitule « La science-fiction en France de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 70 ». Christian Schellbourg, qui est professeur à l'Université de Nancy, qui occupe une chaire de littérature française et littérature de jeunesse, qui a soutenu une thèse intitulée « Poétique de l'imaginaire, construction du texte et construction de l'imaginaire dans les voyages extraordinaires de Jules Verne », qui a travaillé également sur Gérard de Nerval, Balzac, Victor Hugo, donc des gens très bien et sans doute dont la légitimité n'est pas contestée. Je ne vous dis pas tout là non plus, pour aller plus vite, Jean Marigny est professeur émérite à l'Université Stendhal de Grenoble, spécialiste du mythe du vampire, fondateur du GERF, groupe d'études et de recherche sur le fantastique, membre de la branche canadienne de la Société transylvanienne qui s'intéresse à Dracula, évidemment, et qui a publié une thèse depuis les débuts de son activité de recherche. Sa thèse traitait déjà du vampire dans la littérature anglo-saxonne. Voilà, donc j'aimerais leur demander comment s'est passé le début de leur activité de chercheur. Ils sont tous maintenant des chercheurs reconnus, légitimes, qui à leur tour vont encadrer de nouveaux travaux. Mais comment ça a commencé? Les sujets que vous avez choisi de traiter dans vos thèses respectives, j'imagine que c'est vous qui les avez proposés. Avez-vous trouvé facilement des directeurs de thèse? A-t-il fallu batailler pour les imposer à la communauté? Où est-ce qu'on vous les a suggérés? Est-ce que ça a lancé une passion, déclenché un intérêt? Par qui on commence, Jean?
Alors, étant donné, je ne sais pas si tout le monde m'entend, étant donné que je suis le doyen de ce panel, mon expérience est assez lointaine. Hein, j'avais inscrit mon sujet de thèse en 1973, hein, c'est-à-dire que j'ai eu l'agrégation sur le tard en 1972, et l'année suivante, eh bien, j'ai rencontré mon futur directeur de recherche, qui était membre du jury de la GREC, donc c'était extrêmement facile d'entrer en contact avec lui. C'était quelqu'un qui était jeune, donc qui n'avait absolument aucun préjugé et qui était lui-même spécialiste de l'imaginaire, hein, qui faisait partie du CRI, le Centre de Recherche sur l'Imaginaire à Grenoble. Et donc c'était encore l'époque où on travaillait très longtemps sur une thèse, donc j'ai mis 10 ans pour la terminer. Elle a été soutenue en 83 et elle a été publiée en 85. Alors je me souviens très bien qu'à l'époque où j'ai inscrit ce sujet de thèse, j'étais assistant à l'Université de Grenoble et je me suis heurté au scepticisme, voire à l'ironie, d'un certain nombre de mes collègues qui me disaient « Le vampire, c'est de la littérature de gare, donc ça ne devrait pas entrer à l'université. » Il y avait vraiment des préjugés à l'égard de ce genre de littérature. Et je dois dire que lorsque j'ai terminé ma thèse, lorsque je l'ai soutenue, j'ai eu beaucoup de mal à me faire éditer. Donc il a fallu que je fasse chez Didier Érudition une édition à compte d'auteur qui s'est contentée de reprendre le dactylogramme de la thèse d'origine, ce qui veut dire qu'il est parfaitement illisible. Il est illisible d'abord parce que le tirage est très mauvais. Et donc ça a été tiré à 300 exemplaires. Et maintenant, il paraît que cette thèse est devenue un objet un peu mythique qu'on voit réapparaître de temps en temps sur Amazon. Voilà, donc voilà mon expérience personnelle.
On va On va continuer avec Anne.
Alors moi, je suis un peu à l'autre extrémité. Enfin, je ne suis pas si jeune que ça, mais je suis un peu à l'autre extrémité de l'histoire quand même. Et je ne me suis pas heurtée à ce même scepticisme. Mon travail a plutôt été bien reçu. Alors en même temps, je partais avec un parcours très légitime derrière moi. Ce sera le cas aussi pour Simon. Et c'est vrai que ça aide. C'est-à-dire qu'on est issu des écoles normales supérieures, on a l'agrégation, donc on présente des garanties de légitimité qui fait que nos collègues vont plus facilement pouvoir nous faire confiance, même si nos objets sont marginaux. Donc moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai travaillé avec un directeur, donc Jean Bessière à Paris 3, qui a depuis dirigé un certain nombre d'autres thèses sur la science-fiction, le fantastique, qui n'est pas du tout spécialiste de ça, et pas tellement apte à encadrer. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment assez seul. Ça, c'est une des caractéristiques des thèses sur ces sujets à l'université, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, donc les quelques-uns d'entre eux sont là, mais il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc souvent, on est amené à devoir inscrire son sujet auprès de gens qui nous acceptent, mais qui ne vont pas pouvoir vraiment nous orienter. Et ensuite, j'ai été recrutée facilement. Je travaille un peu sur la littérature de jeunesse, beaucoup sur la fantasy, sur les mécanismes de sérialité, sur les cycles, les séries. Donc il s'est trouvé aussi par un hasard de l'histoire que c'était des sujets qui intéressaient les étudiants, les médias, au moment où je suis arrivée, où j'avais fini ma thèse. Donc, après, les choses se sont enchaînées, pour moi, assez facilement. Voilà, donc je tends plutôt à avoir un discours positif de ce point de vue.
Il y a peut-être eu une évolution positive ces derniers temps. On va voir si ça se confirme avec l'autre moitié de la table. Simon ?
Oui, alors, en ce qui me concerne, je ne peux confirmer confirmer ce que vient de dire Anne Besson. C'est-à-dire qu'en fait, l'université française fonctionne de manière complexe. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte lorsque on veut utiliser certains corpus comme ceci. La science-fiction, pas plus que la fantasy, ne sont pas encore particulièrement des objets légitimes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ces objets. Le tout, c'est d'une part, effectivement, de proposer des gages suffisants de sérieux au départ. Ça, c'est pas forcément dans le parcours de tout le monde, donc c'est pas forcément facile. Mais dès lors que, effectivement, on propose ces gages-là, il faut aussi proposer des pistes intéressantes. Et les pistes que Anne a évoquées, la sérialité, l'ouverture vers les médias, ça fait partie de choses qui intéressent beaucoup actuellement l'université. Enfin, pas tous les secteurs, mais il y en a. Donc c'est spécialisé. En l'occurrence, disons le biais par lequel j'ai fait accepter mes recherches et mes perspectives, il est un peu double. C'est à la fois une perspective historique, c'est-à-dire que d'un point de vue d'histoire littéraire, il n'y a pas de mauvais objet. Tous les objets sont susceptibles d'informer sur ce que c'est que la littérature. Et donc, dès lors qu'on propose un travail qui est systématique, documenté et sourcé, c'est quelque chose de tout à fait respectable comme objet, sans forcément dire qu'il faut absolument intégrer au canon la totalité de ce qui est étudié. Et l'autre aspect qui est particulier, qui a, disons, le vent en poupe dans certains secteurs, c'est la catégorie, je dirais, de la théorie de la fiction. C'est-à-dire que dès lors que on s'intéresse à ce que c'est qu'une fiction, tous les objets sont intéressants, et surtout, les objets moins étudiés, moins légitimes, deviennent des moyens de vérifier des hypothèses, parce que si on ne travaille que sur Stendhal et Proust, au bout d'un moment, on peut avoir des résultats qui sont auto-provoqués, c'est-à-dire qui sont des méthodes qui sont ad hoc, donc c'est des moyens de vérification. Et d'autre part, il y a des phénomènes, et c'est fait partie des choses que j'ai des idées que j'ai défendues lorsque j'ai présenté mes objets à mes collègues. Il y a des phénomènes qui ne sont véritablement observables en tant que tels qu'en allant voir certains corpus. En l'occurrence, la science-fiction, dans mon cas. Mais ça pourrait être le cas pour d'autres secteurs de l'imaginaire. Donc, l'idée générale, c'est que, un parcours est moins impossible qu'à l'époque qu'évoquait Jean Marigny, où il y avait un problème de légitimité majeure. Et en même temps, ça signifie qu'il faut avoir une approche réellement structurée, savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, pour parler généralement.
Oui, merci. Alors, bon, moi, c'est un peu l'autre extrême, et c'est la génération juste après celle de Jean Marigny. Alors moi, j'ai fait une thèse sur Jules Verne uniquement parce qu'on m'a refusé une thèse sur Paul Claudel. En fait, la chose était très simple. On m'a dit, vous venez, évidemment, avec deux sujets et je choisirai. Et je voulais absolument faire une thèse sur Paul Claudel. Et donc, je me suis dit, si je mets Paul Claudel et Jules Verne, je suis tranquille, ça tombera sur le partage de midi. Eh bien, manque de peau, c'est tombé sur Jules Verne. Et donc, je me suis retrouvé avec Jules Verne, mais bon, heureusement, j'avais été précautionneux. Je savais que, au moins, ça, j'aimais lire. J'étais pas si sûr que ça, d'ailleurs, d'aimer Claudel, mais j'étais persuadé qu'il fallait qu'une thèse soit un peu ennuyeuse. Et j'ai donc attaqué ça. Alors, pour le coup, et c'est là la stratégie de légitimation, puisque, bon, moi, à l'inverse d'Anne Besson et de Simon Bréhand, je suis absolument pas légitime. J'ai jamais passé l'agrégation, je suis pas normalien. Mais je venais avec un questionnement dans la foulée donc des questionnements du CRI de Jean Marigny, hein, dans la foulée des questionnements de gens comme Burgos sur la théorie de l'imaginaire, et donc c'est cette théorie de l'imaginaire que j'ai appliquée à Jules Verne. En fait, au fond, je suis assez vilain petit canard et assez indigne dans tout ça, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans sur une thèse pour essayer de montrer que Jules Verne n'était pas de la littérature de jeunesse, et ensuite je suis devenu spécialiste de littérature de jeunesse. Donc bon, c'est, on va dire, c'est un parcours de ce point de vue-là assez erratique, enfin qui n'était pas du tout linéaire. Par contre, ce qui pour s'intégrer à l'université, c'est-à-dire quand même pour devenir légitime, ben, j'étais normalement, hein, obligé de faire un grand détour, c'est-à-dire que je suis parti à l'île de la Réunion où, ma foi, il y avait moins de candidats, ce qui permettait d'entrer comme maître de conférence. Bon, et après, évidemment, les choses ont changé, mais par l'écriture, c'est-à-dire que là, il a vraiment fallu faire ses preuves de manière scientifique, faire ses preuves en publiant beaucoup et en travaillant d'arrache-pied. Moi, ce qui m'intéresse dans ces corpus de jeunesse, science-fiction, fantasy, pour le coup, je fais la grande catégorie de la littérature de jeunesse permet de faire assez c'est peu de division au fond, hein. D'autant que je prends la littérature de jeunesse jusqu'au roman pour adultes, soyons clairs, donc à partir de là, c'est très vaste. Bon, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de voir comment fonctionnent les imaginaires, et de plus en plus maintenant comment ils rendent compte de l'évolution des mentalités, de l'évolution des mentalités au fil des générations. Donc, bon, à la fin, on arrive à quelque chose de légitime. Et c'est vrai aussi que, bon, désormais, les travaux principaux, hein, de mon dernier travail sur la science-fiction écologique, c'est véritablement des problèmes qui sont des problèmes liés à l'intermédialité, liés à la grande diffusion et tout ça. Donc, au fond, je dois dire que le côté légitime m'intéresse absolument plus. Enfin, je veux dire, le combat, à mon avis, n'est plus du tout à essayer de légitimer cela. D'abord, primo, maintenant, globalement, c'est à peu près légitimé. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire admettre de nouveaux questionnements sur la littérature. Et peut-être, je crois que le grand combat, mais là pour l'avenir, et là on n'y est pas du tout, c'est d'arriver à faire admettre que la littérature a des moyens d'analyse, un point de vue sur les objets de fiction qui est susceptible d'intéresser la société. Parce que là, pour l'instant, ça pose un vrai problème. Autant on interroge les philosophes et les psychologues, autant nous, on est vraiment complètement marginaux. Enfin, en dehors des cercles où on est, hein, mais bon, globalement.
Je suis troublée parce que vous êtes en train de nous dire, et surtout Christian, que, si j'ai bien compris, qu'à la limite, on peut traiter à peu près n'importe quel objet d'étude à partir du moment où on applique les méthodes, l'analyse, la démarche, c'est dans la démarche elle-même que se trouve la légitimité.
Et Anne et Simon disaient qu'effectivement, la légitimité, elle est globalement dans la méthode, elle est dans les questionnements, elle est dans la théorie littéraire et tout ça. Moi, je crois que la légitimité, elle s'acquiert en fait à partir du moment où on est capable de véritablement d'intéresser un public, de rendre compte de phénomènes qui échappent aux études littéraires traditionnelles. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à être un 19e-iste normal, hein, vous l'avez montré tout à l'heure. Il est évident qu'il y a un moment où, quand vous avez écrit sur Nerval, sur Gautier, sur Hugo, sur Mérimée, et que vous vous rendez compte que globalement ça intéresse éventuellement quelques 19e-istes, mais ça s'arrête là, on a envie de passer à autre chose quand même.
Mais quand on travaille sur des auteurs qui ont traversé de multiples générations, quand on travaille sur Dracula ou le vampire, par exemple, est-ce qu'on l'analyse sous l'angle de comment la société perçoit ces mythes, qu'est-ce qu'elle y projette, quelle lecture on en fait dans les différentes sociétés, puisqu'il y en a eu maintenant un certain nombre qui se sont emparés de ces récits?
Oui, ça, je crois que c'est absolument indispensable, surtout sur un thème comme le vampire, qui, au début, n'intéressait qu'une minorité de lecteurs, et des lecteurs qui ne s'intéressaient qu'à ce motif. Hein. Et puis, il faut dire qu'il y a un décalage entre, évidemment, le moment où le roman de Bram Stoker est sorti, où il a connu un certain succès d'estime, et le XXe siècle, où, à ce moment-là, grâce au cinéma, parce qu'il faut dire que dans ce genre de littérature, le cinéma joue un rôle absolument prépondérant. Hein. Je pense que si Dracula n'avait pas été porté à l'écran, pour ne citer que Dracula, hein, si Dracula n'avait pas été porté à l'écran, aujourd'hui, on n'en parlerait même plus, hein. Ça sera un objet de curiosité pour les amateurs, mais rien de plus. Or, c'est à partir du film de Todd Browning que, brusquement, les ventes du roman se sont multipliées dans le monde entier, les traductions se sont multipliées dans le monde entier. Et donc, Dracula a touché le grand public à partir de ce moment-là. Et j'ai essayé de montrer dans ma thèse que le thème du vampire a été très très apprécié aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, parce qu'il représentait un certain nombre des préoccupations de l'époque des Américains, qui étaient frappés par la crise, comme nous le sommes aujourd'hui, par une crise énorme qui avait provoqué un chômage endémique tout à fait dramatique. Et Dracula, qui avait le personnage incarné par Todd Browning au cinéma, avait un fort accent hongrois, donc il représentait, cristallisait toutes les haines xénophobes de l'époque. Hein. On le détestait, Dracula, c'était véritablement celui qui représentait tout ce que la société américaine rejetait. Évidemment, ça a complètement changé avec Anne Rice, avec les vampires contemporains. Mais à l'époque, c'était ça. Hein. C'était une espèce de répulsion, attraction du public à l'égard du thème du vampire.
Et Anne et Simon travaillent tous les deux sur une littérature relativement contemporaine, récente en tout cas. Est-ce que ça fait une différence du point de vue de la réception par la communauté scientifique? Est-ce qu'il est plus dangereux, plus délicat de s'attaquer comme ça à des auteurs récents sur lesquels on n'a pas un recul critique aussi important, alors qu'ils commencent à peut-être?
Alors moi je suis vraiment de l'hyper contemporain, donc c'est plutôt compliqué méthodologiquement, parce qu'on a tout un tas de problèmes de recul critique soi-même, plus que vis-à-vis de mes objets qui, là encore, sont très vastes et sont légitimés par ma position et ce que j'en fais. Maintenant, l'université a un rapport un peu trouble, un peu double à ce qu'il y a du succès. Parce que à la fois, oui, l'université a envie d'avoir des gens qui vont pouvoir parler du jeu vidéo ou des séries, c'est assez récent, hein, mais l'université a envie de ça, voilà, quelqu'un, si vous nous faisiez un parcours culture numérique, oh oui, c'est ça, oui, mais la littérature a envie d'aller sur les terres des infocom, mais là ça rentre dans le débat de spécialistes, mais par ailleurs, et là Simon est peut-être plus représentatif de ça, les objets se légitiment au fur et à mesure qu'ils vieillissent et qu'ils ont moins de succès. C'est-à-dire que la science-fiction est devenue un objet d'étude plus mûr, hein, du point de vue universitaire, lorsqu'elle a été supplantée par la fantasy en tant que genre de grande diffusion. Au milieu des années 2000, si elle l'a été, Simon, elle l'a été, elle l'est.
En fait, c'est sur la relation. Enfin, disons, il y a une concomitance potentielle, oui. Je ne vais pas m'exprimer sur les réalités éditoriales contemporaines, mais ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord avec la prémisse, c'est-à-dire le fait que une littérature comme la science-fiction devient de fait un objet plus légitime dès lors qu'il y a une distance historique. C'est-à-dire que de toute façon, aborder un directeur de thèse ou proposer un travail sur quelque chose qui a été publié depuis 2 ou 3 ans, quelle que soit la chose, même si c'est un grand auteur encensé en
même
général.
Même si c'est Greg Egan.
Voilà, non, mais en dehors même de l'imaginaire lui-même, en dehors de la science-fiction, on ne travaille que très peu sur l'ultra-contemporain. Et le problème, c'est que l'ultra-contemporain, selon les personnes, c'est tout ce qui a moins de 50 ans ou tout ce qui a moins de 10 ans. Ça, voilà, on n'est pas dans les mêmes échelles. Donc, de ce point de vue-là, de toute façon, il est plus facile de travailler sur Jules Verne que sur Isaac Asimov, même si c'est possible, comme l'a prouvé Anne. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus possible. C'est quelque chose qui est de plus en plus possible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, les objets anciens, de leur seule ancienneté, deviennent des objets un peu plus légitimes. Ça ne veut pas dire que ce qui est vieux est mieux, ça veut dire que, tout simplement, on est prudent à l'université. Personne n'a envie de faire un travail approfondi qui demande du temps, de l'énergie et un engagement en général, sur des objets qui, en fait, se périment. Un des principes de l'université, c'est la distinction. L'université fonctionne comme une instance de légitimation sans que qui que ce soit aux commandes. Enfin, on constate, en fait, c'est plutôt une chambre d'enregistrement. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui provoque, qui produit cet effet-là. Et donc, une des logiques de l'université, c'est la distinction. On distingue des choses. Ça veut dire 2 choses, du discernement et de la hiérarchie. La hiérarchie, d'ailleurs, n'étant pas un effet secondaire, pas forcément un effet recherché. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas le recul nécessaire pour produire cet effet de discernement et de hiérarchie, eh bien, c'est difficile de défendre ces objets. De ce point de vue-là, une approche en termes de médias sur l'ultra-contemporain, c'est une approche qui ne fait quasiment aucune distinction au départ entre les objets et qui cherche plutôt à prouver des effets qui sont à ce moment-là distingués des effets qui sont, disons, des effets communs à tout un corpus. Pas forcément dire telle série télévisée est intéressante, tel film est intéressant, mais dire quand on regarde tout ça dans l'ensemble, des effets généraux se dégagent. Et c'est sur la généralité à ce moment-là qu'on peut s'exprimer. Et pour être un tout petit peu plus précis sur mon objet, donc la science-fiction en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de travailler sur un objet comme je le fais depuis 1950 jusqu'à nos jours, c'est qu'il y a la possibilité de distinguer des effets à long terme. Des grands mouvements d'ensemble. Et ce sont ces grands mouvements d'ensemble qui, après, permettent d'aborder un objet, c'est-à-dire que une des logiques, pour moi, du type de travail que j'ai fait, c'est justement une logique préparatoire. C'est-à-dire qu'il y a besoin, et ça n'est pas accessible facilement, il y a besoin de travaux qui soient des travaux d'ensemble, généraux, qui permettent ensuite de s'attaquer à des objets particuliers. Voilà.
Oui, bon, sur cette question de la... Là, je peux, pour le coup, parler en tant que directeur de thèse. C'est-à-dire, comment est-ce que... tout à l'heure, on a évoqué comment nous, on est à la place que l'on a. Mais le problème, maintenant, c'est qu'il y a une autre génération. Voilà. Et c'est vrai qu'on est amené à être extrêmement prudent. Moi, je sais que bon, je suis quelqu'un qui peut parler... D'abord, je suis professeur de littérature française. Or, je travaille... pratiquement à 80% sur de la littérature anglo-saxonne, qui évidemment, normalement, a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête de mes collègues, il va de soi que je ne peux pas laisser mes étudiants le faire. Hein. Donc, mes étudiants, eux, travaillent sur de la littérature française, de jeunesse. Alors, en jeunesse, je sais que, par exemple, il y a un cas intéressant dans 2 thèses inscrites là, l'une l'année dernière et l'une cette année. Je n'ai eu absolument aucun problème à inscrire une thèse sur Pierre Bottero. Ça n'a pas posé de difficulté. Alors, pour une raison simple, les collègues ne connaissent pas, et c'est bien connu, Schelbourg dépose des thèses de Zozo, donc Pierre Bottero, pourquoi pas. Par contre, cette année, j'ai déposé une thèse sur Fantomètre, et là, je suis en train d'essayer de négocier difficilement un contrat doctoral, et là, ça pose problème, parce que les collègues connaissent, ils ont une mauvaise idée, même s'ils l'ont beaucoup lu. À partir de là, il y a effectivement des réticences. Bon, alors, heureusement, Cholet est mort, donc ça aide. Il est mort, l'œuvre est donc terminée. Un des gros problèmes que l'on a, et ce que disait Simon tout de suite est tout à fait significatif. Un des gros problèmes que l'on a, c'est que l'université est exigeante et de plus en plus en termes de corpus. Or, nous, pour arriver à enregistrer des phénomènes qui soient effectivement des phénomènes significatifs, il nous faut des corpus énormes. Il nous faut des corpus qui, dont les frontières sont souvent incertaines. C'était le fameux titre d'un colloque à Cerisy. Et en fait, effectivement, ça pose un problème à l'institution. Donc, pour donner des thèses, on est obligé de véritablement là trouver des corpus qui soient eux légitimables, on va dire aisément.
Je vais faire une chose très mal élevée, mais ça va m'aider à poser quelques questions par la suite. Je vais quand même avouer que je suis moi-même universitaire, mais pas en lettres, donc sous un autre angle qui se rapproche plus des disciplines scientifiques. Cette table ronde, d'ailleurs, il pourrait tout à fait y en avoir d'autres sur la manière dont, plus généralement, l'université traite la science-fiction, l'imaginaire en général, comme un moyen de vulgariser, de donner envie, d'attirer les jeunes vers la science, ce qui est une des grandes préoccupations de l'université à l'heure actuelle. Et on pourrait débattre aussi ici, je ne sais pas si le questionnement est valable quand on est chercheur en lettres, de ce que veut dire vulgariser. Est-ce que c'est un terme péjoratif, là encore? Peut-être pas. En tout cas, donner l'envie. Je voulais juste vous raconter que moi j'ai un collègue qui un jour est venu me voir en sachant que je m'intéressais à la science-fiction en me disant « Oh, j'ai lancé un thésard sur la science-fiction, ça va te plaire, je te tiendrai au courant. » Je n'ai pas eu de nouvelles du thésard pendant toute la durée de son travail, mais j'ai vu le résultat final et sa thèse portait sur la culture geek. Et effectivement, en traitant de la culture geek et donc de la manière dont se structurent les communautés avec des tas de points, de signaux communs, de culture commune qui relèvent de l'informatique, des nouvelles technologies, du bricolage, de séries cultissimes dans des milieux restreints et de la connaissance d'un certain nombre d'œuvres, d'un petit corpus science-fiction, il considérait qu'il avait traité des littératures. Enfin, il m'en avait parlé en tant que collègue en me disant qu'il a travaillé sur la science-fiction. Ce qui n'était absolument pas le cas. Au-delà de la référence de quelques titres et de quelques personnages clés, il était bien question de la culture geek. Mais moi, ça m'a paru un petit peu révélateur d'une manière d'envisager des littératures qui n'auraient pas tout à fait le même statut que les autres et qui ne seraient pertinentes à analyser que d'abord en les considérant a priori comme n'étant pas tout à fait de la littérature. Littérature jeunesse, je pense qu'on a exactement les mêmes difficultés, si ce n'est pire.
Si ce n'est pire,
ouais. Et en ne les considérant plus comme œuvres, mais cette fois-ci uniquement par rapport à leur public, leur promotion, le discours que l'on a autour d'elles.
Je vais ajouter une chose à ça. Alors évidemment, c'est un peu technique. Pour le public, je vais être obligé d'expliquer un peu. Le propre de ces corpus-là sont aussi des corpus qui font complètement exploser les cadres institutionnels de l'université. Un cadre comme la différence entre littérature et littérature comparée. Un cadre comme la différence entre professeur de littérature française et professeur de littérature anglaise. Un cadre comme la différence entre un littéraire, ça étudie des textes, et un professeur de 18e section, ça étudie du cinéma. Bon. Et nous, on ne peut plus, parce que aujourd'hui, on étudie effectivement des choses qui vont se décliner, en tout cas des personnages, qui vont se décliner à la fois de manière textuelle, de manière graphique, de manière cinématographique, de manière vidéoludique. Et ça rend véritablement l'institution folle. Elle a un mal fou à en rendre compte. Et c'est arrivé jusqu'au ministère cette année. Pour le coup, c'est pour ça que je peux en témoigner à la table ronde, parce que c'est quand même intéressant. La création d'un master qui soit commun littérature de jeunesse et études cinématographiques à Nancy, par exemple, a posé un problème jusqu'à Fioraso, qui dit, mais c'est pas logique, parce que le cinéma, c'est de l'art, et la littérature de jeunesse, c'est de la littérature. Donc, ça pose des problèmes qui sont véritablement des problèmes institutionnels. Alors, on va finir par arriver à jouer le jeu, mais c'est difficile. Et l'autre point également, et j'en termine là-dessus, c'est le côté attractif dont Anne parlait tout à l'heure. La moindre formation spécialisée qui ouvre attire très vite un monde fou. Un monde fou pas forcément de qualité toujours, hein, et qu'il faut gérer et qui évidemment vide les autres sections, ce qui fait que les gens d'Infocom nous détestent et les gens de littérature, non, bon, tant mieux. Si, je vous assure que c'est un peu vrai. Mais les gens d'Infocom, bon, alors il y en a peut-être qui nous aiment, mais beaucoup nous détestent. Évidemment, les collègues de lettres également, parce qu'on vide les masters de lettres.
Je vais me tourner vers Jean Marini pour savoir si lui, est, en tant que directeur de thèse, il a le même ressenti, les mêmes constats.
Oui, alors moi j'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance de ne diriger que des thèses sur le fantastique. Et donc, la difficulté, l'une des grandes difficultés quand on dirige des thèses dans ce domaine, c'est de réunir en fin de travail un jury. Parce que, évidemment, il faut trouver des spécialistes. Et alors, moi, j'avais un obstacle supplémentaire, c'est que je suis angliciste. Ce qui veut dire qu'il fallait trouver à la fois des gens qui soient spécialistes de fantastique et qui soient anglicistes. Une autre difficulté, dans un autre ordre, c'est que quand mes travaux sur les vampires ont été un petit peu connus, j'ai eu souvent des sollicitations d'étudiants qui voulaient inscrire une thèse sous ma direction. Seulement, la plupart du temps, c'était des étudiants de littérature comparée. Et pour des raisons de carrière, moi, je leur déconseillais de s'inscrire avec moi, parce que quand on veut faire des études de littérature comparée, il était bien évident qu'il faut tomber sur un comparatiste, ce que je ne suis pas. Donc, il y a cette double difficulté qui s'est présentée. Quant à mes étudiants, automatiquement, ils étaient fléchés vers les études anglophones et il n'y avait pas... Le gros problème de l'université française, c'est que, selon les normes du CNU, il y a... Voilà, Conseil national des universités. Les choses sont extrêmement cloisonnées. Et ça, c'est ce que j'ai toujours déploré. Moi, j'aurais été ravi d'accueillir des comparatistes, hein, mais dans leur propre intérêt, il ne fallait pas du tout que je les oriente vers cette direction-là.
J'ai même parlé avec quelques anglicistes.
Et il est très très mal vu de dévier vers les thématiques d'une autre section.
Je crois que ce qui apparaît là clairement, c'est que en fait, le monde universitaire, c'est un monde qui a ses arcanes. Et ses fonctionnements internes, c'est-à-dire que lorsqu'on le regarde de l'extérieur, enfin, sans critique particulière, donc lorsqu'on le regarde de l'extérieur, on peut soit avoir l'impression que des choses aberrantes se produisent, donc des cloisonnements inexplicables, des impossibilités, soit l'impression d'une espèce de citadelle d'ivoire dans laquelle des choses se produisent entre gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui délibérément maintiennent à l'extérieur des choses dont ils ne veulent pas chez eux. En fait, c'est, comme on le voit là, extrêmement... ça n'est pas maîtrisé en tant que tel. Il y a évidemment une direction, une logique et toutes sortes de discussions. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les logiques de l'université, les logiques que je perçois, en tout cas dans les milieux, disons, de l'imaginaire au sens large, sont des logiques qui ne peuvent pas se superposer du tout. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un qui est passionné par la science-fiction, par la fantasy, approche un directeur de thèse, un directeur de master pour faire un travail, eh bien, la première chose que le directeur potentiel est obligé de faire, c'est de montrer par quelles étapes il va falloir faire passer l'objet pour le transformer en quelque chose qui soit scientifiquement reconnaissable. Et on peut le critiquer, enfin on peut le déplorer, on peut aussi reconnaître que c'est tout simplement une question de, disons, de communication scientifique. C'est-à-dire que le but d'un travail à l'université n'est pas de mettre en valeur telle ou telle chose qu'on adore. Ce but est de produire du savoir de telle sorte que les personnes qui lisent les résultats de nos travaux soient en mesure de l'utiliser. d'en faire quelque chose, dans un sens ou dans un autre. Il n'y a aucune prescription sur ce qu'on doit faire à partir de notre travail. Par conséquent, forcément, quand on est, disons, à l'extérieur de ça, soit qu'on veuille y rentrer, soit qu'on regarde simplement le mécanisme, on peut avoir l'impression de quelque chose qui est finalement en grande partie arbitraire. Alors oui, c'est arbitraire, mais c'est arbitraire au sens où c'est arbitré, et qu'il y a cette logique de jugement, et que ce jugement scientifique, il est aux deux extrémités, à l'entrée et à la sortie. Et quand on accepte, enfin, je suis loin de pouvoir diriger une thèse, je n'en ai pas l'habilitation du point de vue de l'université, mais je me rends bien compte que ce que me disent mes collègues ici, c'est représentatif du fait qu'on ne peut pas s'engager dans n'importe quelle direction. Et de ce point de vue-là, quand on regarde de l'extérieur avec la passion des amateurs de ces domaines, on se dit mais ce serait génial s'il y avait telle et telle chose. C'est un petit peu comme de se dire j'ai toujours voulu que Elric soit adapté au cinéma. Ah oui, mais en même temps pas n'importe comment, pas par n'importe qui, ni dans n'importe quelle condition. De la même manière, je préfère qu'il y ait éventuellement peu de travaux sur tel ou tel aspect de l'imaginaire, du moment que ces travaux soient de qualité et qu'ils permettent de faire avancer la science d'une part et la connaissance des milieux de l'autre. C'est en tout cas ma position.
Surtout qu'on n'a pas le choix, parce que pour le coup, je vais être très bref, pour le coup, comme le corpus est délégitimé, si jamais la thèse est elle-même moyenne, c'est la catastrophe.
On est condamné à l'excellence. Je crois qu'Anne voulait revenir sur la question de réception.
Oui, la question, non, elle portait, ta question au départ, sur votre question portait sur cette thèse qui était une thèse de sociologie et pas une thèse de littérature. Alors, bon, là, on est tous des littéraires autour de cette table. C'est vrai qu'il y a d'autres approches des genres qui sont possibles. On nous demanderait trompeusement des résultats qui sont de l'ordre de la sociologie. Moi, je ne fais pas du tout, justement, de sociologie de la réception, en tout cas à court terme, alors que c'est très souvent... par exemple, le discours journalistique nous demande ça. Les journalistes qui viennent vers moi pour parler de la fantasy, la question, c'est pourquoi ça marche ? J'en sais rien, moi. Voilà, si j'avais la réponse, d'abord j'écrirais des livres et je gagnerais beaucoup d'argent. Et ensuite, on ne peut répondre à cette question que des banalités, parce que c'est la crise, parce que l'évasion. Et je n'ai pas envie de dire toujours la même chose qui serait valable pour n'importe quelle œuvre et quasiment pour n'importe quelle époque de l'histoire. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on nous demande et qui, en fait, ne correspondent pas à notre travail. Donc, effectivement, le travail des chercheurs en littérature, au sens assez large dans lequel nous sommes, ne se confond pas avec un travail d'histoire et ne se confond pas non plus avec un travail de sociologie. Donc, on n'est pas tellement apte. Enfin, voilà, nos travaux ne consistent pas à répondre à la question... Bon, peut-être que toi tu y viens, mais pourquoi la société consomme ça ?
Non, je viens pas à ça.
Voilà, nous on travaille sur ça et pas sur le pourquoi de cette consommation.
Non, je viens pas à ça. Moi, je viens au fait, et pour le coup, c'est vrai que maintenant je travaille en partenariat avec des sociologues à Nancy. Mais non, je viens au fait que les fictions, du fait de l'adhésion que leur donne le public à un moment donné, sont forcément plus ou moins révélatrices d'un écho entre les préoccupations d'une génération et le succès que cette génération accorde à certaines
œuvres. Oui, on est d'accord.
Et voilà. Et là, on peut travailler. Et ça, pour le coup, ça intéresse les sociologues.
Alors, sans parler spécifiquement des sociologues, quand on parle de littérature de l'imaginaire dans la vie quotidienne, en dehors du monde universitaire, tout de suite, la discussion vous engage vers le cinéma et la manière dont il a abordé les thématiques, les œuvres. Quand on parle de littérature jeunesse, on parle très vite de Harry Potter, et quand on parle de Harry Potter, très vite, il y a énormément de gens qui l'ont lu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu les films. Alors, est-ce que l'université... il n'y a que Jean qui nous en a parlé, mais qui nous en a parlé très clairement et peut-être d'une manière un peu inattendue, en nous disant que, oui, en intégrant visiblement dans sa réflexion de manière très affirmée que le traitement par le cinéma du mythe de Dracula lui avait donné une orientation, une signification que la littérature n'avait pas fournie entièrement à elle toute seule. Est-ce que vous vous êtes désintéressé totalement du cinéma comme de manière un peu radicale. Anne vient de nous dire que ce n'était pas son problème d'aborder la question sous l'angle de la sociologie. Quelle réaction vous avez par rapport au cinéma? On reprend peut-être ce que nous a dit Jean, puis qui nous a fait une introduction très brève sur la question.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'esthétique cinématographique, hein, mais je ne peux pas faire, absolument pas faire l'économie du cinéma, parce que le cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Dracula, mais à propos des vampires, et à propos de tout ce qui a un certain succès, on ne peut pas faire, absolument pas faire l'économie du cinéma. Bon, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Harry Potter. Dans ma province, dans la province qui m'intéresse, le grand phénomène à la mode, évidemment, c'est Twilight. Et Twilight, c'est 4 romans et c'est 5 films. Hein. Et je crois que ceux qui n'ont pas lu les romans ont vu les films, et ceux qui n'ont pas vu les films ont lu les romans. Et de toute façon, les deux sont absolument inséparables. Hein. Et c'est pourquoi je me suis fait un devoir professionnel de lire les 4 romans, ce qui est un grand mérite, en particulier le 4e tome qui est... Et d'acheter les DVD, je ne les ai pas vus en salle, mais d'acheter les DVD des 5 films, parce qu'il faut bien que je parle intelligemment de la question, même si c'est une question qui ne m'intéresse absolument pas. Hein. Mais je pense que aux États-Unis, il y a une politique qui fait que quand un roman a du succès, on l'adapte automatiquement au cinéma, et inversement, quand un film a du succès, on en tire des romans, hein. Donc il y a vraiment une interaction entre les deux modes d'expression, et il est absolument on ne peut absolument pas séparer les deux domaines.
Ce sera notre dernière question, donc je vais donner l'occasion au conférencier une dernière fois sur ce thème-là ou sur un autre s'ils ont vraiment envie de dire quelque chose et qu'ils n'ont pas eu d'occasion.
Alors moi, je travaille vraiment sur des expressions multimédiatiques. Je travaille sur des univers, donc dans leurs différentes variations. Et j'ai fini ma thèse et commencé à travailler fin des années 90, début des années 2000, donc au moment de l'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux et de la série, de la suite effectivement des romans et des films Harry Potter. Donc c'est vraiment une question qui s'est immédiatement imposée à moi de manière très forte. Donc je suis comparatiste. J'ai cette chance, et donc moi j'ai totalement le droit et je ne me prive pas donc de travailler sur des avatars multimédiatiques d'un même objet. Ça fait partie de mes méthodes de travail de manière intrinsèque. Voilà.
Simon.
Alors, sans que le cinéma et la bande dessinée et toutes sortes d'objets de ce genre soient de ma compétence à proprement parler, c'est impossible de travailler, de réfléchir à la science-fiction sans prendre en compte ces éléments-là. Pour une raison très importante, qui est que c'est finalement par le cinéma et indirectement par la bande dessinée, enfin moins indirectement par la bande dessinée, que c'est faite la validation culturelle de la science-fiction. C'est-à-dire que moi, je ne parlerai pas de légitimation de la science-fiction. Bon, c'est des termes compliqués à utiliser. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'ils veulent dire. Mais pour moi, la science-fiction n'est pas légitime, pas plus que l'imaginaire. C'est légitime de travailler dessus éventuellement, mais l'objet en tant que tel ne l'est pas. Notamment parce que il est indéfinissable, difficile à évaluer. Mais aussi et avant tout parce que finalement, on ne sait pas de ce qu'il s'agit d'étudier. On n'arrive pas à cerner la spécificité de la science-fiction. Enfin, du moins, on n'arrive pas, on essaye en tout cas, moi j'essaye. Mais ce n'est pas évident. Mais surtout, ce qui n'est pas évident, c'est de voir ce qui se transmet d'une forme à l'autre. Qu'est-ce qui va faire que, on va parler de films de science-fiction et de livres de science-fiction, qu'est-ce qu'il va y avoir de commun entre les deux? Et finalement, ce qui arrive le plus rapidement, et c'est pour ça que je parle de validation culturelle et pas de légitimation, c'est-à-dire de mouvement profond, de respect pour la forme, c'est les icônes. Le fonctionnement par icône, par image, qui va faire qu'on va reconnaître telle ou telle image. On reconnaît l'image du robot, on reconnaît l'image du vaisseau spatial, et ainsi de suite. Et ces images-là sont celles que les gens qui n'ont jamais lu de science-fiction connaissaient de la science-fiction au départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais lu de science-fiction dans les années 50 sait quand même parler des robots et des vaisseaux spatiaux. Il n'en a pas lu, mais il sait ce qu'il y a dedans. Bon. Et qu'est-ce qu'il retrouve dans le cinéma ? Bah, la même chose. Il retrouve ça. Et d'une façon particulière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de confirmation pour les gens qui n'ont jamais lu de science-fiction que la science-fiction, c'est bien ce qu'on voit pour le coup dans les films, en l'occurrence pendant longtemps, surtout des films de monstres. Pourquoi pas ? Moi, j'adore ça. Mais le fait est que cette espèce de confirmation a minima. C'est-à-dire que finalement, c'est essentiellement ça. Et tout l'aspect, disons, conceptuel de recherche qui peut y avoir éventuellement, mais pas toujours, dans la science-fiction, est un tout petit peu masqué par cet aspect-là. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas forcément critique de dire ça, puisqu'il y a un fonctionnement qui est un fonctionnement d'équilibre entre des idées et des images qui peuvent circuler avec un équilibre relatif entre les deux. Et donc, c'est indispensable de prendre en compte le fonctionnement du cinéma. Ça n'est pas pour autant facile de cerner ce qui va permettre de parler des uns et des autres ensemble. Voilà.
Oui, alors sur ce rapport avec les médias, bon, ça c'est clair qu'il faut, c'est rigoureusement indispensable, on voit bien qu'on l'a tous fait. En fait, il faut véritablement réussir à rentrer dans les théories contemporaines de la médiativité et de choses comme ça pour arriver à pouvoir les appréhender. Il faut savoir une chose, on a une chance inouïe. Hein. Globalement, les moyens d'accès aux différents médias, et notamment au cinéma, c'est notre bonne vieille rhétorique. Hein. Moi, je me rappelle un colloque sur Godard où j'ai découvert que Ilysel Gradus... plus que moi, enfin bon, c'est vraiment... Donc, bon, les moyens, on les a, hein, les littéraires, les ont. Mais c'est aussi, de ce point de vue-là, au littéraire, à s'emparer d'un certain nombre de choses, sinon les autres iront, hein, c'est clair. Donc, moi, sincèrement, j'ai vraiment plus la moindre pudeur là-dessus. Mais alors, par contre, sur l'imaginaire, et là, je crois que le terme même, et c'est là-dessus que je terminerai, est intéressant pour nous parce qu'il permet véritablement ce jeu d'interface entre un produit grand public et un questionnement universitaire. Parce qu'au fond, même si on met des choses très différentes dessous, quand on parle de littérature de l'imaginaire, on va parler de la science-fiction, de la fantasy, de la jeunesse, tout ça, on va mettre littérature de l'imaginaire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, ça veut juste dire que c'est pas de la littérature, globalement. Hein. Et de l'autre côté, à l'université, le questionnement sur l'imaginaire, son anthropologie, son développement, la façon dont il se structure, les systèmes de représentation qu'il sous-tend, ça, sont des questionnements universitaires. Donc on va dire que d'une certaine manière, il y a une façon de faire qui consiste à jouer sur les mots en grande partie pour arriver à articuler les deux.
C'était une très belle discussion. On va être obligé de l'interrompre alors qu'elle est loin d'être épuisée. Mais on est tenu par le timing. Donc il est temps de remercier nos quatre intervenants qui nous ont, je crois... donner envie de découvrir leurs travaux qui sont publiés et que vous trouvez aussi sous la bulle du livre. Donc allez voir aussi leurs essais et leurs réflexions. Merci.
Je fasse acheter.